Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode dédié à Naxi, un firewall applicatif web open source. Et nous avons donc le plaisir de recevoir le créateur de Naxi, Thibaut Coquelin.
Bonjour.
Et Sébastien Plot, qui participe au développement de Naxi.
Bonsoir.
Bonsoir Sébastien. Donc ce soir, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Guillaume Prigent.
Bonsoir.
Éric Fraissinet.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc Thibaut, Sébastien, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur cet épisode. Donc nous allons parler de Naxi qui est un WAF. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un WAF ?
Un WAF ou donc parfait applicatif, c'est un mécanisme qui est généralement en rupture et qui vise à empêcher les requêtes malveillantes d'atteindre l'applicatif.
Donc l'applicatif, on peut parler d'applicatif web, hein, c'est ça, hein.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et ça protège en fait les applications web de quoi ?
Alors c'est assez valable. Là, en l'occurrence, dans le cadre de Naxi, c'est vraiment concentré sur le top 10 WASP. On va dire à l'exception des CSRF, donc majoritairement tout ce qui va être injection SQL, cross-site scripting, remote file upload, on va dire la plupart des vulnérabilités classiques qui impactent les applicatifs de nos jours.
D'accord. Et donc Naxi, alors, pourquoi ce nom ?
Alors Naxi, ça veut dire Nginx anti XSS SQL injection. Donc ça essaie du moins de faire ce que son nom indique.
Et qu'est-ce qui a fait que tu aies décidé de te lancer dans ce projet ?
Eh bien, en fait, donc, dans le cadre de mon travail à NB System, on cherchait à monter des offres d'hébergement ou de sécurité et on s'est retrouvé face à un problème où on ne trouvait pas chaussures à notre pied en ce qui concerne les pare-feux applicatifs, puisque soit l'approche des autres pare-feux applicatifs open source existants ne nous convenait pas ou les performances ne remplissaient pas les contraintes qu'on avait, ou les solutions propriétaires étaient ou trop onéreuses ou alors pas adaptées à nos besoins.
Non, mais je suis un peu étonné parce que des pare-feux applicatifs, il existe quand même des dizaines sur le marché, gratuits, payants, open source. C'est quand même la tarte à la crème du produit de sécurité des années 2010.
Voilà, effectivement, en fait, on en trouve beaucoup. Après, il y en a beaucoup. On va, par exemple, avoir des soucis de performance où, par exemple, nous, même à notre niveau de trafic, le pare-feu applicatif serait pas en mesure, en fait, de suivre la cadence et derrière avoir des impacts en performance assez importants.
Qu'est-ce que tu leur reproches au pare-feu du marché ? C'est juste une histoire de performance ?
Principalement, oui, et aussi en termes de fonctionnement, parce que la quasi-totalité se base sur du fonctionnement par liste noire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir toute une liste de, par exemple, de regex à matcher pour détecter une attaque ou pas. Et donc derrière, en fait, à maintenir, c'est assez compliqué dans le temps. Pour en permanence mettre à jour son rule set pour se protéger de telle ou telle nouvelle CVE qui est sortie sur WordPress ou autre.
Pour compléter ce que dit Sébastien, c'est que c'est aussi une question d'approche dans la mesure où on reste une petite équipe et on n'avait pas envie d'avoir trop de problématiques avec les mises à jour de règles très nombreuses. Donc d'où l'approche, on va dire, plutôt liste blanche.
D'accord. Donc on peut rappeler effectivement les deux façons, les deux approches. Donc liste noire qui consiste à interdire tout ce qui est connu comme étant malveillant, et liste blanche qui consiste à n'autoriser uniquement ce qui est prévu, c'est ça ?
Tout à fait.
Et donc Naxi est un WAF qui se concentre uniquement sur la partie whitelist.
En fait, effectivement, Naxi, il n'a pas de réelle signature à proprement parler qui représente des attaques. Il va juste s'intéresser à des symboles ou des choses similaires qu'on sait être utilisés fréquemment par les attaques pour construire un score plutôt que simplement matcher une expression régulière qui est censée identifier des XSS.
Mais alors, techniquement, moi, je ne connais pas grand-chose, mais c'est quoi ? C'est un outil qu'on installe sur un reverse proxy ou quelque chose qui part les GET, les POST, enfin, ou HTTP, et puis qui essayent du coup pas de trouver des regex sur les signatures, mais des motifs qui sont assez fréquents dans certaines attaques, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord.
En fait, Naxi, en l'occurrence, c'est un module pour Nginx, qui est un reverse proxy. C'était aussi une des raisons de notre choix, dans la mesure où on utilisait Nginx dans notre infrastructure sur les reverse proxy. Et à l'époque où on a créé Naxi, où on avait ce besoin, par exemple, le mode security n'avait pas encore été porté sur Nginx.
D'accord.
Donc, c'est vrai que ça permettait, voilà, de centraliser la partie parfait applicatif.
D'accord. Alors, quand on fait du whitelisting, il y a un côté qui est un peu touchy, c'est justement la réalisation de la whitelist. Alors, est-ce que vous avez des outils? Comment est-ce que vous générez, en fait, cette whitelist?
Alors, effectivement, en fait, on a des outils pour les générer automatiquement. En fait, Naxi a deux modes de fonctionnement. Un mode dit d'apprentissage et le mode bloquant. Donc en fait, pendant le mode d'apprentissage, Naxi va juste se contenter de loguer toutes les requêtes qu'il aurait bloquées en indiquant le ou les caractères qui auraient fait que la requête soit bloquée. Et donc nous, derrière, donc on passe à un outil automatisé qui va analyser tous ces logs et qui, derrière, va générer des listes blanches.
D'accord. Et ensuite, donc tu passes Naxi en mode bloquant.
C'est ça.
Et tout ce qui est différent de ce qui n'a pas été appris, on va dire, est bloqué.
Exactement.
Donc, du coup, tu as une phase de. Donc, tu as du learning, tu construis ton corpus, et tu as une phase de validation manuelle ou de tri, que sais-je, pour dire OK, maintenant ça c'est correct, ça c'est vraiment pas bon avec un mauvais score, et je passe en run.
Oui, tout à fait. En fait, donc les outils dont on sert pour la réalisation de l'apprentissage de Naxi, par exemple, injectent les différents événements qui sont vus dans une base de données Elasticsearch, qui se prêtent notamment pas mal à la visualisation. Donc, on sert de cette base de données pour générer des listes blanches, et ensuite, on est capable, par exemple, de taguer les événements pour les signaler comme ayant été whitelistés, jusqu'au moment où on arrive à un taux d'exception qui est considéré comme acceptable, et où les exceptions restantes sont des attaques.
Mais alors, ce truc-là, ça tourne en prod chez vous ?
Oui, tout à fait.
Et donc, l'établissement de la liste blanche, c'est vous qui le faites ou c'est les clients ?
C'est nous, en l'occurrence, qui le réalisons.
Et donc, sur un site de e-commerce standard, quoi, c'est combien de temps ? Enfin, c'est par site ou c'est par application, par exemple sur du Django, du SPIP et autres ?
En fait, c'est super vrai. Par contre, l'intérêt qu'il y a, notamment quand on est sur des solutions classiques de marché, que ce soit du CMS ou du site e-commerce, c'est qu'on va retrouver des comportements qui sont assez similaires. Et donc, à partir de là, on est capable de créer des templates de listes blanches, par exemple pour un WordPress ou pour un Magento ou des solutions comme ça. Après, tout dépend, on va dire, du niveau de customisation et du degré d'interactivité du site.
Et donc, en moyenne, disons, sur un site e-commerce ou Magento, ça prend combien de temps d'établir la liste blanche ?
Ça va être énormément dépendant, on va dire, du nombre d'utilisateurs, mais l'apprentissage, si jamais on est en mesure de réaliser une pseudo-recette et d'avoir un peu l'ensemble des actions, à partir de là, généralement, ça peut se faire en quelques heures.
Oui. Et... Alors, il y a un point qui est aussi délicat quand on est dans ce contexte, c'est de pouvoir gérer rapidement un faux positif. Comment est-ce que vous faites quand il y a un faux positif qui est déclaré?
Alors, en fait, les faux positifs, nous, on a de la remontée en temps réel de toutes les exceptions que Naxi a levées. Donc, en gros, on a toujours quelqu'un qui regarde un peu ce qui se passe. Et donc, on avertit assez rapidement si jamais il y a un faux positif ou pas, parce qu'en général, les faux positifs vont être dus, par exemple, à la mise en production d'une nouvelle version du site web.
Ouais.
Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui va se voir très, très rapidement sur des graphes. On va avoir d'énormes pics qui vont bien montrer que, en fait, soit il y a vraiment une attaque, soit il y a eu un changement important dans le site pour lever autant d'exceptions.
C'est vrai que, en, complément de ce que dit Sébastien, l'intérêt de l'aspect par liste blanche à l'inverse de liste noire, c'est que tant qu'on a un applicatif qui évolue pas, une fois que l'apprentissage initial est réalisé, il n'y a aucun besoin d'intervenir pour réaliser des mises à jour ou autre par rapport à des mises à jour de signature. Donc c'est uniquement en cas d'évolution vraiment de l'applicatif qu'on peut se retrouver dans des contextes de faux positifs une fois que l'apprentissage a été fait.
Ouais, enfin, typiquement sur un WordPress, par exemple, tu vas avoir des mises à jour plusieurs fois par semaine sur des applications rajoutées.
Ouais, après, en fait, il faut vraiment que ça change la nature des interactions entre l'utilisateur et l'application derrière. En fait, au niveau des listes blanches, typiquement, quand on va avoir, par exemple, des formulaires, on peut avoir des niveaux de granularité qui sont plus ou moins... Enfin, au niveau des listes blanches, justement, si jamais on sait qu'il y a certaines pages qui évoluent beaucoup.
Donc, si tu as un module de formulaire, par exemple, et que tu rajoutes un type de champ nouveau, tu risques d'avoir à gérer une nouvelle règle.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est le contre-coup de l'aspect de liste blanche, c'est que si jamais on est sur des applicatifs qui évoluent, ça peut demander des ajouts de liste blanche. De manière générale, on va dire qu'un grand nombre quand même d'interactions ne vont pas provoquer de faux positifs, parce que même si la liste blanche est plus sensible aux faux positifs que la liste noire, il faut généralement qu'on ait un comportement assez atypique pour que ça puisse déclencher le pare-feu.
Et du coup, si ça déclenche le pare-feu, ça fait quoi?
Alors en fait, après, donc au niveau de la configuration interne de Nginx et de l'intégration de Naxi dans Nginx, ce qu'on fait de base, c'est qu'on redirige la requête vers une autre location, au sens Nginx du terme, ce qui permet à l'utilisateur soit de retourner tout simplement un code d'erreur ou de continuer à traiter la requête derrière. Donc là-dessus, ça dépend énormément du degré d'intégration. Par exemple, il y a des gens qui vont mettre une page de captcha là où la requête est bloquée, et si jamais il voit par exemple que c'est un humain, il va générer automatiquement une liste blanche ou des choses comme ça. Là-dessus, ça dépend vraiment de l'intégration qu'on veut en faire.
Et qui a la maîtrise de la whitelist? C'est du coup, parce que nous, j'ai pas mal de serveurs chez différents hébergeurs, c'est pas notamment au niveau SSL par exemple. C'est moi qui gère mes certificats SSL. Donc ça, c'est le premier point, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est je confie cette whitelist à mon hébergeur. En fait, c'est vous qui gérez ça.
Alors, enfin, dans le cadre de l'utilisation quand on fait NBS, oui, parce qu'on fait de l'infogérance. Après, ça dépend vraiment des utilisateurs. Concernant la partie SSL, en général, le pare-feu applicatif est mis là où le trafic va être déchiffré. Par exemple, nous, on va dire que c'est les reverse proxy qui vont faire le décoding SSL, ou alors si jamais ça va jusqu'au serveur final, dans ce cas, effectivement, il faut que le WAF soit sur le serveur final.
Et enfin, même dans le cas de Nginx, dans tous les cas, même s'il est en reverse proxy, à un moment, il a forcément besoin de déchiffrer le trafic pour savoir où le forwarder pour le serveur d'en face. Donc dans ce cas-là, on sera quand même en mesure d'appliquer les règles à ce niveau-là.
Donc ça tourne en prod depuis combien de temps chez vous?
2 ans, je crois.
Ouais, moi ça, ou peut-être un peu plus, j'aurais dit.
Et alors c'est quoi les retours d'expérience du terrain? Ouais.
Alors nous, nos retours d'expérience du terrain, c'est que il y a un aspect qui est agréable, c'est la résilience du pare-feu, par exemple, aux attaques inconnues. Ça, c'est le côté positif de la liste blanche. Le côté, négatif, je dirais, de la liste blanche, c'est que ça demande généralement un lien assez proche avec les personnes qui s'occupent de l'applicatif, par exemple, pour être prévenu des nouvelles mises en production importantes éventuelles.
Et je crois que vous avez fait un challenge à un moment, non, sur trouver des failles de sécurité dans le logiciel?
Oui, alors on l'a fait à plusieurs occasions. Donc, on l'a fait effectivement dans le cadre de NBS System avec Cerberus, où on avait et organisé des challenges et on a commandité des audits auprès de sociétés tierces. Et de plus, on a, malgré sa petite renommée, il y a eu pas mal de challenges qui ont été organisés par d'autres personnes autour de Naxi, notamment à Berlin Side qui était à Hambourg il y a quelques mois, avec des prize money effectivement pour essayer de trouver des bypass dans le logiciel.
Et alors, ça donnait quoi tout ça?
Bah, pour le moment, on n'a pas encore eu à donner nos prize money, mais on se décourage pas, on se dit qu'un jour, il y aura peut-être des gens qui trouveront des choses sympas aussi.
Bah, c'est bon signe, ça, alors.
Oui, c'est bon signe. Après, on ne fanfaronne pas parce que on sait que ça reste des domaines qui sont complexes où une erreur est vite arrivée. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, on va dire qu'on est relativement content des résultats que ça a pu donner.
Donc alors, pour le moment, c'est un WAF pur, on va dire, qui fait du filtrage applicatif. Est-ce que vous souhaitez aller vers d'autres fonctionnalités comme, je sais pas, de l'authentification ou du load balancing ou
En l'occurrence, pas vraiment. Enfin, l'objectif, là, c'était vraiment, nous, de répondre à un besoin ponctuel. De plus, maintenant, Naxi a, je pense, à quoi, ouais, 3 ans, un peu plus de 3 ans. C'est quand même des domaines qui évoluent beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on a vocation à faire évoluer en usine à gaz, vraiment juste à garder son rôle et on regarde aussi de près les autres choses qui peuvent apparaître et les autres méthodologies. Par exemple, on a intégré il y a peu libinjection, qui est une librairie justement de détection, d'injection SQL et de process scripting qui utilise une approche de tokenisation qui est assez intéressante. Ça pourrait être peut-être plus vers de l'intégration vers des outils qui sont un peu plus intelligents pour profiter des avancées en détection.
Tu peux développer un peu ce principe de tokenisation, comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Donc en fait, si jamais on prend la liste noire par expression régulière, la grande difficulté, c'est que le motif d'attaque peut se trouver sous énormément de formes différentes. Et il est facile, on va dire, d'offusquer un payload pour essayer de contourner une expression régulière. L'inverse, la tokenisation, c'est une approche, on va dire, qui est un peu plus proche de Naxi. C'est-à-dire qu'il va identifier certaines parties, par exemple dans le cadre d'un XSS, un chevron ouvrant parce qu'il sait que c'est une ouverture de balise, pour générer une représentation très courte du payload final, par exemple de quelques caractères, qui va indiquer donc les différentes choses qu'il a vues dans le payload. Et ensuite, c'est cette petite chaîne de caractères tokenisés qui sera uniquement analysée pour détecter est-ce qu'il s'agit de quelque chose de légitime ou de quelque chose d'illégitime.
Donc, concrètement, par exemple, sur un formulaire où tu vas rentrer une balise ouvrante, dès qu'il y a la balise ouvrante, j'ai pas très bien compris en fait comment ça se passait.
D'accord. On va dire entre guillemets, c'est la tokenisation. L'objectif, c'est d'arriver à réduire une expression voilà, qui peut être assez complexe et assez riche en quelque chose de beaucoup plus court et qui va représenter uniquement les bouts qui ont été considérés comme intéressants du payload initial pour le juger. Donc par exemple, si jamais on prend le cas du formulaire, effectivement, si jamais tu mets un chevron ouvrant, ça va générer un token, alors que si jamais tu mets juste des lettres, par exemple, ça ne va pas générer de token. Et voilà, c'est arrivé à faire un nettoyage, on va dire, du payload pour se concentrer sur les bouts qui sont intéressants.
C'est un petit peu comme dans Elasticsearch ou dans la phase de tokenisation, et c'est en ce sens-là que vous employez le mot tokenisation, qui est la réduction de running en run, par exemple, et que tous les mots qui sont en approche fonction sont run. Et donc, d'essayer de ramener avec libinjection ou tokenisation des structures complexes en certains motifs clairement identifiables.
Ouais, tout à fait.
Quitte à passer une grosse partie du détail.
Exactement. Par exemple, dans le cas de libinjection, si ma mémoire est bonne, il réduit les injections SQL sur une chaîne de 5 tokens maximum, il me semble. Ouais, c'est ça qui va vraiment réduire ça sous une forme très courte.
D'accord.
Et donc, au niveau du dev, tu peux partager quelques histoires. Développer un logiciel qui est en frontal sur Internet et qui est exposé aux attaques, c'est pas évident, non? Comment vous faites pour le sécuriser? Vous développez en Go ou...
Non, on va dire, on a fait pas mal de tests au début. Après, on reste de manière générale des grands fans du hardening noyau, des choses comme Pax ou GRSEC, qui permettent souvent de donner une petite bouffée d'air. On va dire que Naxi, au niveau de son histoire, il a commencé par l'épreuve du feu. À l'époque, donc, c'était un projet qu'on développait en interne, qu'on n'avait pas encore open sourcé parce que pas très mature. Et donc à l'époque, c'était Charlie Hebdo qui s'était fait incendier leurs locaux, donc je crois que c'était il y a 3 ans de ça, et qui s'était fait défacer plusieurs fois leur site. Leur ancien hébergeur avait décidé d'arrêter de les héberger, parce qu'ils n'étaient pas très sereins par rapport à ça. Et on avait décidé justement de récupérer le site de Charlie. En l'occurrence, le site présentait pas mal de vulnérabilités parce qu'il s'était fait défacer plusieurs fois dans les dernières 24 heures. Et donc, au début, on l'a testé comme ça, en fait. On l'a testé avant qu'il soit open source dans le cadre de Charlie Hebdo, qui faisait l'objet d'attaques, on va dire, assez récurrentes et assez soutenues.
Et vous avez jamais eu des crashs suspects en production, des choses comme ça?
Alors non, aussi, au tout début, on a eu des crashs, mais qui étaient plus, en l'occurrence, des bugs, mais qui étaient pas, enfin, qu'on n'a pas identifié comme exploitables, qui étaient vraiment du crash pur, mais du moins rien qui soit de l'interruption de service.
Que, si je me semble bien, il y a quand même eu un CVE d'un Maxi, non? Il me semble qu'un mec a trouvé un truc.
Alors, on avait ouvert à l'époque un CVE, on l'avait ouvert, c'était assez marrant. Sur une. En fait, au tout début, on utilisait SQLite et on avait une pseudo SQLite qui est assez rigolo au niveau de SQLite, mais comme c'était uniquement local, on va dire que c'était pas une vraie CVE. Si jamais c'est là que tu fais référence, c'est donc j'ai mémoire.
Ouais, j'ai plus la référence en tête pour être honnête, mais je me souviens d'avoir vu passer un truc sur Full Disclosure, donc je me suis dit tiens, marrant.
Bon, on va dire, on n'a jamais été inquiété en tout cas dans l'histoire des bugs qu'on a pu trouver, nous ou d'autres dans Naxi au niveau sécurité.
Non, sinon effectivement peut-être le bug dont tu parles, c'était j'ai mémoire en fait d'un contournement possible quand on c'était devant du 2IS. Où en fait en encodant de manière un peu particulière les La requête, en fait, en s'appuyant sur le parsing un peu laxiste de 2IS, on pouvait contourner une ou deux règles, je crois.
Ok. Bon, là, je l'avais de tête, comme ça, je ne saurais pas te dire. Et dans les évolutions, vous envisagez de faire des trucs du genre, je sais pas, rate limit sur l'authentification et tout comme ça, parce que malheureusement, il y a comme un paquet de gens qui sont compromis par des mots de passe triviaux. D'avoir quelque chose qui pourrait bloquer des tentatives d'accès à WordPress, ce serait pas totalement déconnant, quoi.
Ouais, alors en fait, ça par contre, là en fait, on sort légèrement en fait du scope de Naxi pur. Parce que Naxi, vraiment, lui, son but, c'est vraiment de se protéger contre les exploitations web classiques. Donc bon, sauf le brute force. Par contre, ça, le brute force, c'est quelque chose en fait qui peut se faire très facilement juste avec Nginx et un autre outil du genre Feltuban, qui au final serait très simple à mettre en place. Et bon, enfin, en tout cas, beaucoup plus simple que de rajouter des fonctionnalités à Naxi avec tout le lot de bugs que ça pourrait induire.
Et c'est que pour ajouter à ce que disait la problématique, par exemple, de gérer des rate limits ou des choses comme ça, c'est qu'il y a tout un côté persistant. Et un des changes que nous, on s'était mis dans le cadre de Naxi, c'était sur l'aspect performance d'avoir un tout petit footprint et un temps de processing qui reste très léger. Et le fait de rajouter ce genre de fonctionnalité, forcément, ça induit un poids qui est assez important au niveau du traitement.
Là, en gros, avec une instance de Naxi, vous servez combien de connexions par seconde? Enfin, je sais pas si c'est la bonne métrique pour ça. Hein.
Ouais, alors j'ai pas forcément de chiffres comme ça. Je sais que chez nous, en tout, on a seulement quelques reverse proxy qui tous utilisent Naxi pour l'ensemble des sites et il y en a quand même pas mal. On parle de quelques gigas pendant les périodes de pointe type solde. Nous, on a eu un retour d'expérience au moins d'un très gros site américain qui utilise Naxi, qui lui traite, je crois, c'est un peu plus d'un terabit en lycée avec, et c'est une des raisons qui les a fait choisir Naxi par rapport à d'autres solutions, c'est sur l'aspect performance et le fait de pouvoir traiter, on va dire, après coup, vraiment les events sans avoir à mettre toute la charge au niveau, on va dire, runtime.
Alors, tu dis qu'il y a un site américain qui l'utilise, c'est quoi, en gros, le statut du projet? C'est, vous l'avez passé, je sais pas, chez Apache, vous l'avez passé à l'OWASP, ou c'est un truc qui reste propriétaire à vous, ou vous avez fait un spin-off? C'est quoi? Alors, la licence déjà pour commencer?
C'est en GPLv3, c'est un des c'est un projet qui fait partie de l'OWASP. C'est qu'aujourd'hui on le développe un petit peu dans notre coin en fonction de nos besoins à nous, nos envies ou alors ce que vous nous demandez les gens.
Donc vous avez beaucoup de contributions utilisateurs? Enfin, quand tu dis ce que demandent les gens, c'est juste les tickets qui sont ouverts, enfin des feature requests des pull requests qui vous arrivent ou vous recevez des mails? Enfin, ça marche comment?
Il y a un peu de demande justement de nouvelles fonctionnalités sur, sur certains points qui sont manquants. Par exemple, il y a quelques temps, avant que ce soit implémenté, il y avait beaucoup de monde qui voulait le support, par exemple, du parsing de JSON ou bien le support d'expression régulière dans les whitelists. Voilà. Après, en termes de contribution externe sur le corps de Naxi, ça reste encore faible. Il y a peu de gens qui envoient des pull requests. Là où on va avoir le plus de contributions externes, ça va être sur les outils de génération des whitelists.
Et Sébastien, tu as suscité ma curiosité. Tu parlais d'intégrer des regex dans les whitelists, mais actuellement, si vous n'intégrez pas les regex dans les whitelists, comment vous générez une whitelist en fait ?
Alors, en fait, le support des regex dans les whitelists est présent maintenant. Et en fait, avant que le support soit là, effectivement, on avait dans le cadre de sites, par exemple, avec beaucoup de rewrite d'URL. Là, effectivement, la génération des whitelists pouvait être assez complexe parce qu'on était obligé de faire des matchs complets sur chaque URL.
D'accord. Ouais.
Ouais, parce que le problème des expressions régulières, c'est que ça peut, enfin, tu peux vite faire une bombe, quoi. Le parsing d'expression régulière, c'est pas si évident.
Voilà, bah ouais. Après, de toute façon, enfin, on ne parse pas les regex nous-mêmes, on utilise PCRE, c'est quelque chose qui globalement fonctionne correctement. Pas trop de soucis à ce niveau-là.
Mais c'est que, comme tu dis, Nicolas, typiquement, les demandes sur les expressions régulières, même au niveau des signatures, c'est des chose qu'on vachement demandé les gens. Nous, au début, c'était pas forcément ce qu'on pensait être le plus adapté, surtout par rapport à la philosophie du logiciel. Après, quand nous-mêmes, on s'est confronté à des solutions d'e-commerce un peu touffues, avec justement énormément de rewrite et des choses qui bougent beaucoup, on a vite compris que c'était parfois un mal nécessaire.
Et est-ce que vous gérez des cas un peu merdiques Je pense à de la sérialisation d'objets, enfin, je vois des gens qui feraient du pickle en Python, des trucs comme ça, où là, pour filtrer, t'es obligé de décoder complètement le protocole.
Alors non, c'est que là-dessus, c'est un parti pris d'essayer, on va dire, de rester sur des choses simples pour éviter trop d'usine à gaz au niveau des décodings dans tous les sens. Là-dessus, il reste avec une approche vachement simpliste. Typiquement, l'intérêt, c'est que même si on prend des choses voilà, qui sont sérialisées ne serait-ce qu'en PHP, si jamais on va retrouver ça dans un formulaire, ça reste quand même des caractères qui sont super particuliers et qui du coup vont lever un score très important. Donc les cas où ça pourrait passer tout en étant aussi présent ce type de choses vraiment dans des choses légitimes, à part effectivement quand il y a des gens qui de manière légitime envoient des choses qui sont sérialisées.
Donc tu as quand même une approche, on va dire, blacklist avec cette notion de score. Quand tu dis que tu vois des caractères qui sont, on va dire, dangereux, tu augmentes un score. Donc là, on passe un peu du côté blacklist, non?
Alors, en fait, c'est dans l'idée de Naxi, justement, c'est que on fonctionne avec des systèmes de score. Une requête, on va dire, super standard, par exemple, ne va pas forcément avoir de score, mais dès qu'il va y avoir des choses qui sont considérées comme des anomalies, que ce soit des caractères qu'on sait être utilisés dans des attaques ou autres, ou alors des malformations au niveau du protocole, ça va augmenter la note de la requête, et si jamais la note dépasse un des points qui a été configuré, alors la requête est bloquée. Et toute l'idée de la liste blanche est là, en fait, c'est d'arriver à abaisser les notes des requêtes légitimes pour qu'elles restent en dessous du seuil.
D'accord. Ah d'accord, ok. Ah, donc c'est pas un mécanisme de whitelist pur et dur, on va dire, tu as quand même cette notion de poids qui te permet de pouvoir gérer des exceptions un peu plus facilement.
Oui, tout à fait, de mettre un certain degré de tolérance. Le but, c'est d'éviter que des choses qu'on considère comme légitimes puissent se retrouver bloquées pour des détails qui sont trop insignifiants.
Vous avez une success story à partager? Une customer story? Enfin, je sais que vous avez hébergé les Charlie Hebdo, etc. Mais un petit détail, une petite anecdote, quoi, pour les auditeurs podcast.
Non, je pense après dans les anecdotes sympas qu'on a eues, c'était plus des retours de l'extérieur, de gens qui étaient beaucoup beaucoup plus gros que nous et qui venaient nous parler de Naxi ou nous demander en disant, oh, on est en train d'essayer d'utiliser ici, on rencontre tel et tel problème. C'est marrant de voir des choses beaucoup plus grosses que nous qui viennent nous demander un coup de main pour travailler sur ce genre de choses.
Alors, il y a combien de personnes actuellement qui contribuent sur ce projet?
Ouais. Alors actuellement, donc sur le corps, on va dire, on est deux ou trois personnes. Et après, donc sur les outils de génération automatique, c'est un peu plus. Mais en tout, vraiment sur toutes les parties de code, on doit être à moins d'une dizaine de personnes, je pense.
D'accord. Et est-ce que justement, c'est peut-être le moment de lancer un appel à contribution? Est-ce que vous avez besoin de gens dans un, on va dire, un domaine particulier?
Effectivement, là où on recherche pas mal de personnes, c'est surtout sur la partie apprentissage, où on reste encore dans des choses qui sont toujours un peu du tâtonnement. Et là-dessus, effectivement, on a assez régulièrement des propositions externes, mais on est très souvent preneur. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Ok, ah, bon match.
J'ai encore une question. Qu'est-ce que vous produisez en termes de traces? Quel type de traces on vous demande en général?
Alors, en fait, en termes de log, donc Naxi, en fait, va loguer sous forme de query string toutes les informations, enfin pas mal d'informations sur la requête, donc à savoir l'IP source, le VOS de destination, l'ID de la règle qui a matché dans la requête, l'URL. Et il peut aussi en fait loguer en fait de manière plus complète, c'est-à-dire carrément en fait tout le contenu de la variable qui a matché.
Donc les headers, les données postées, enfin l'URI.
C'est ça, en fait, c'est ça. N'importe en fait si n'importe quelle partie de la requête qui aura matché pourra être loguée.
D'accord.
Ça pose pas des problèmes, ça, en termes de. Enfin, je sais pas si tu postes un numéro de carte bleue ou un truc comme ça, si tu logues l'entête.
Voilà, après ça c'est des histoires de compliance au niveau des personnes qui vont utiliser le logiciel. Et dans ce cas, de toute façon, s'il y a jamais si à partir du moment où de toute façon il y a un numéro de carte bleue qui passe au niveau du reverse proxy, il est censé être compliant avec les normes qu'il faut pour avoir le droit de faire passer des numéros de CB.
Et c'est que en complément de ça, effectivement, le logging intensif dont parle Sébastien, qui log aussi le contenu, on l'utilise surtout pendant les phases d'apprentissage, parce que ça permet de raffiner, on va dire, la génération des règles, par exemple, d'utiliser des outils tiers aussi qui peuvent analyser le contenu et nous donner des indications complémentaires qui sont plus spécialisées que Naxi pour détecter certaines choses.
Ouais, enfin, tu parles de compliance, etc., mais globalement, je suppose que Naxi, tu le mets après avoir déchiffré le SSL. Enfin, sinon, ça sert à rien. Donc, du coup, tu vois quand même passer plein de trucs au niveau de Naxi. En fait, la question, c'est est-ce que les clients payent pour avoir ça ou pas? Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils sont protégés ou pas?
Ils sont au courant, oui.
Donc, et c'est du opt-in, quoi. Ils savent que tout leur trafic passe dans un système qui va loguer, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais.
Alors, j'ai une question complémentaire. Ça peut être intéressant de savoir qu'on est attaqué. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le tri après dans tout ça? Parce qu'il va y avoir, non pas des faux positifs, mais des choses qui sont loguées, qui sont pas intéressantes. Est-ce que vous aidez celui qui analyse les traces à l'exploiter? On parlait de notes tout à l'heure. Est-ce que c'est rapporté? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter, etc.?
Alors en fait, effectivement, l'ensemble des choses qui sont loguées, enfin vues ou repérées par Naxi comme anormales, vont être mises, donc là en l'occurrence avec les outils actuels, c'est dans des bases Elasticsearch. Il y a pas mal de gens, par exemple, qui vont utiliser Naxi en combinaison avec Fail2Ban, qui est un petit logiciel open source en Python qui va permettre de prendre une action quand un même pattern, par exemple, va se répéter plusieurs fois depuis la même adresse IP source. Par exemple, c'est fréquemment utilisé pour bannir des gens qui font du brute force SSH. Il y en a aussi pas mal qui s'en servent pour bannir des gens qui vont faire des attaques applicatives derrière.
Vous avez déjà découvert des 0D avec ça?
Des 0D dans, tu as retrouvé des attaques intéressantes?
Ouais, trouver des attaques intéressantes dans les logs que les gens essayent sur votre site en premier, enfin sur un site client en premier.
Alors, on n'a pas vu vraiment de trucs entre guillemets novateurs. Beaucoup de choses, quand même, dans ce qu'on voit, ça reste du bruit, des choses comme ça, ou des attaques assez génériques. Par contre, effectivement, ce qui est rigolo, c'est quand il y a des nouvelles attaques qui apparaissent, de voir l'impact et la vitesse de répercussion qu'il peut y avoir sur l'ensemble des sites qu'on peut avoir. Parce qu'aujourd'hui, on a, je crois, à peu près 3000 sites, donc ça nous donne quand même un panel qui est assez sympa, justement, pour voir la popularité d'une attaque ou d'une autre.
Et alors, je ne sais pas si Nico a posé la question tout à l'heure, j'ai pas forcément entendu. Est-ce que ça pourrait introduire des... Enfin, comment est-ce que vous pensez que ça pourrait être exploité pour découvrir une faille dans votre produit? Est-ce que vous voyez des pistes et des choses sur lesquelles vous avez réfléchi pour essayer de les empêcher? Mis à part les choses classiques, évidemment.
En fait, on va dire que nous, au niveau des choses qu'on craint le plus au niveau des vulnérabilités dans l'Axis, ça serait plus des choses de la famille des buffers overflow ou des choses comme ça. Ça, c'est une problématique assez différente. Après, effectivement, il y a tout ce qui va être au niveau protocole. Là-dessus, on s'appuie surtout sur la communauté et les challenges pour voir des choses, puisque heureusement ou malheureusement, la plupart des choses qu'on voit visent réellement les applications qui sont derrière plutôt que les pare-feux applicatifs eux-mêmes. Après, effectivement, sur des cibles qui sont super sollicitées, on voit des gens qui tentent pas mal de bypass ou des techniques de contournement, d'obfuscation, etc. Au niveau de Noxie, pour le moment, on n'a pas vu de choses qui sortent vraiment du haut.
Ah, et est-ce que c'est complètement transparent ou est-ce que le visiteur voit quelque chose?
Alors, si jamais la requête n'est pas bloquée, c'est complètement transparent. L'AXI rajoute même pas de header dans la réponse du serveur pour dire qu'il est là. Si jamais la requête est bloquée, là, tout dépendra de la configuration. Par exemple, on peut configurer un AXI pour quand il bloque une requête, retourner une erreur 500. Donc là, effectivement, un attaquant pourra se douter qu'il y a peut-être quelque chose en face qui va bloquer la requête.
Ouais, parce que ça introduit comme un spoof dans votre infra. Enfin, je veux dire, le gars qui charge le code GitHub et qui trouve un DOS facile à exploiter, il peut éteindre pas mal de sites d'un seul coup.
Après, on a le même souci avec n'importe quel logiciel. Au final, si jamais quelqu'un prend le code source de Nginx, il pourra faire la même chose.
Tout à fait.
Mais c'est que pour compléter, de par l'architecture d'NGX qui travaille avec des workers, généralement, si jamais il trouve un DOS dans l'AXI, en fait, il pourra juste cracher un FIS et ça ne fera pas réellement d'interruption de service en soi.
Ouais, enfin, s'il fait cracher les FIS suffisamment vite, j'imagine que. Les FIS, c'est des process ou c'est des threads?
C'est des process.
Parce que le coût du fork, il ne doit pas être négligeable quand même. Donc,
Ouais, tout à fait. Après, on reste sur des infrastructures qui sont, enfin, du moins, c'est pas encore arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais on reste sur des infrastructures qui sont relativement larges et distribuées pour que, on espère avoir le temps de voir ça assez rapidement pour réagir.
Ok. D'autres questions? Quelque chose à ajouter?
Ouais. Est-ce que vous avez des choses à ajouter?
Non, si, ça a été une expérience assez sympa de commencer le projet et puis de le voir grandir. Comme ça, on va dire.
Bon, eh bien, on vous souhaite...
Du coup, vous avez une estimation un petit peu de... Jamais facile, mais du nombre de personnes qui utilisent votre solution?
Non, aujourd'hui, on n'a pas de réelle vision là-dessus. On va dire comme le projet open source, et surtout, il ne cherche pas forcément à se signaler ou à s'identifier. Généralement, on entend plus parler des gens, soit ceux qui ne sont pas contents ou qui nous font des retours positifs, mais on n'a aucune idée de la volumétrie de personnes qui l'utilisent en production.
Ça doit être c'est un côté un peu frustrant quand même de faire des choses et de pas avoir de feedback.
Ouais, je pense que c'est le retour de bâton de l'open source sur certains aspects où les gens font après ce qu'ils veulent effectivement des choses qui ont été publiées.
C'est le plus classique. Hein.
Bon, eh bien, on vous souhaite une bonne continuation.
Merci à vous.
merci d'avoir participé à ce podcast. Et puis on vous dit à tous à très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci.
Bye.
Au revoir.